Vous êtes sur RTL.
L'heure de retrouver le journal avec Olivier Bois. Bonjour.
Bonjour Jean-Mathieu, bonjour à tous.
On commence, Olivier, avec la nomination donc de Jean Castex au poste de Premier ministre.
Oui, un quasi inconnu à Matignon, celui qui était jusque-là le discret monsieur déconfinement, est venu se présenter aux Français en quelques mots hier soir aux 20h de TF1. Homme de droite, gaulliste social selon ses mots. Je ne suis pas là pour la lumière. Voilà ce qu'il a répondu à ceux qui trouvent son profil un peu terne et qui, faute de poids politique, l'imaginent en simple collaborateur d'Emmanuel Macron. Benjamin Sportouche, comment expliquer d'abord ce choix du président ?
Eh bien d'abord tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a voulu incarner la nouvelle étape de son quinquennat par un nouvel homme et donc exit Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre qui n'a pas démérité, notamment pendant la crise du Covid, mais qui est aussi devenu plus populaire que son chef, une popularité encombrante pour un président qui prépare déjà 2022. Et puis dans la perspective de cette élection présidentielle, Emmanuel Macron veut clairement reprendre les rênes du pouvoir. Et un détail qui n'en est pas un, eh bien c'est lui qui a choisi le directeur de cabinet de Jean Castex à Matignon. Le patron, c'est donc désormais Macron. Et en nommant Jean Castex, le chef de l'État compte d'abord sur un homme qui connaît parfaitement les rouages de l'administration pour mettre en musique la partition présidentielle. Un techno avec l'accent du Gers, proche aussi des territoires avec qui le chef de l'État veut se réconcilier. Jean Castex a donc le profil idéal, homme chaleureux, réputé efficace, peu connu et donc a priori sans ambition. A priori seulement parce qu'en politique, l'appétit peut toujours venir en mangeant.
Merci Benjamin Sportouche, chef du service politique d'RTL. Voilà donc pour le profil de Jean Castex qui va donc devoir maintenant former son gouvernement. Il veut aller vite, peut-être même avant la fin du week-end, maximum début de semaine prochaine. Discours de politique générale en milieu de semaine devant les députés. Et sur sa feuille de route, une priorité absolue, relancer l'économie après la crise du coronavirus. Un dernier mot pour vous dire qu'Édouard Philippe, lui, est attendu au Havre dès ce matin pour un enterrement. C'est demain qu'il redeviendra à nouveau officiellement maire de la ville après une large réélection.
Alors sur les municipales justement Olivier, on va beaucoup parler aujourd'hui de Marseille, vraiment où la situation est vraiment très très confuse. Hein.
Oui, qui va devenir maire de la ville pour succéder à Jean-Claude Gaudin ? Eh bien personne ne peut le dire. Le conseil municipal commence à 9h30. On rappelle l'équation, l'union des gauches avec Michel Rubirola est arrivé en tête devant la droite mais sans pour autant avoir de majorité absolue. Tout va dépendre à la fois de l'attitude du groupe Rassemblement National et surtout de Samia Ghali, ancienne du PS, qui réclame pour apporter son soutien à la liste de gauche un poste de première adjointe qui lui est refusé pour le moment. Personne ne sait ce qu'elle va faire. Les votes commencent donc tout à l'heure à 9h30.
Autre titre ce matin, le début, ça y est, des vacances scolaires et un premier week-end de grand départ.
Il y aura du monde sur les routes. Bison futé a classé la journée en orange dans le sens des départs. 800 000 voyageurs sont attendus dans les gares également. C'est un peu moins si on compare aux années précédentes. Il faudra donc être patient, sauf pour les chanceux qui sont déjà arrivés sur place en vacances. On va partir à Saint-Malo, au camping d'Alette qui se remplit assez progressivement. C'est pas encore le grand rush, Christian Pourvert.
Le camping propose une vue à 180 degrés sur la côte d'Émeraude et la baie de Saint-Malo. Florian et ses copains ont fait le déplacement de Rennes pour passer deux jours au grand air.
On a cette envie de se retrouver dans des cadres avec une sensation de liberté après cette période.
Fabien vient du Mans, dans la Sarthe. Il a tout installé pour l'apéro face à la mer.
La petite table de camping, les chaises et puis on aimerait bien que le soleil perce un peu plus. Mais on est bien quand même.
Il retrouve Clémentine, sa sœur, qui a fait le déplacement de Sarcelles dans le Val d'Oise.
On n'a jamais fait ça, c'est la première fois. Ça permet de retrouver la vraie vie, de faire un break avec tout ce qui s'est passé. Ça apaise les tensions.
Et pendant ce temps-là, Georges prépare l'ouverture d'un tout nouveau bar au centre du camping.
C'est un grand, grand espace vert. Il y a des food trucks qui sont installés le soir. Puis de temps en temps, avec une scène ouverte, avec différents artistes, des DJs, des chanteurs, des poètes. Je propose un nouveau lieu, quoi. On teste, on essaye.
Louise est saisonnière, elle est chargée de l'accueil.
Les gens sont de bonne humeur, il y a beaucoup de Français. On a quelques Allemands aussi. Depuis quelques jours, ça ne fait qu'augmenter. Donc c'est plutôt positif pour une ouverture.
Près d'un quart des emplacements sont réservés. Le directeur du site parle d'un très bon début de saison.
Reportage Christian Panvert. Pour tous ceux qui prendront le train aujourd'hui, sachez que pour la première fois depuis le déconfinement, les wagons-bars sont à nouveau opérationnels. Simplement, il faudra retourner à sa place pour manger ou pour boire. En bref, c'est la fin de la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Deux ans et demi après après la mort du taulier, Laetitia et Laura enterrent la hache de guerre. Elles sont tombées d'accord sur le partage de l'héritage colossal de Johnny. Aucun détail n'a filtré. David Hallyday a fait savoir que lui aussi abandonnait toute action en justice.
Le navire humanitaire Ocean Viking se déclare en état d'urgence.
L'équipage décrit à bord une situation de quasi-chaos depuis qu'ils ont sauvé et recueilli ces derniers jours 180 migrants. Ils font du surplace en Méditerranée. Malte et l'Italie refusent de faire débarquer pour le moment les réfugiés. La situation est extrêmement tendue, selon Fabienne Lassalle, directrice adjointe d'SOS Méditerranée.
C'est effectivement la crise la plus grave puisque c'est la première fois que nous sommes amenés à déclarer l'état d'urgence. Là, ça fait faire plus de 8 jours pour les premières personnes qui ont été secourues, sachant que certains d'entre eux avaient dérivé pendant plus de 5 jours en mer, complètement déshydratés et déboussolés. Là, on l'a senti que l'ambiance était très difficile à bord et que depuis 2 jours, la situation s'est tendue et s'est détériorée. 2 personnes se sont jetées à la mer hier. Il a fallu les récupérer. D'autres menaçaient aujourd'hui. Une personne a tenté de se pendre aujourd'hui. Des violences ont eu cours sur le pont entre les rescapés et même auprès de l'équipage. Donc, on est de nouveau confronté à une crise profonde en Méditerranée. Et en plus, aujourd'hui, correspond à un changement ministériel en France qui ne facilite certainement pas les avancées sur ces sujets.
Des propos recueillis par Sinamir. Aux États-Unis, les chiffres sont à nouveau alarmants. 57 000 nouvelles contaminations au coronavirus en une seule journée. Donald Trump n'en a quasiment rien dit. Le président a prononcé un discours au Mont Rushmore à la veille de la fête nationale du 4 juillet. Rien sur la pandémie. Donc, on retiendra cette phrase du président américain qui a dit que les États-Unis étaient le pays, je cite, le plus exceptionnel qui n'ait jamais existé. En sport, c'est la reprise du championnat de Formule 1 ce week-end. Le Grand Prix d'Autriche avec une saison évidemment largement tronqué du grand classique puisque les McLaren ont dominé les essais libres devant le pilote Red Bull Max Verstappen. Et puis d'un mot pour finir, Jean-Mathieu, c'est un peu tôt pour en parler, il est 6h30, mais c'est quand même un signe du déconfinement. Les pubs rouvrent aujourd'hui en Grande-Bretagne avec un peu d'inquiétude quand même, justement pour un déconfinement trop rapide. Le Premier ministre Boris Johnson a appelé ses concitoyens à démarrer calmement sur la pinte et en tout cas en respectant les gestes barrières et les distances dans les pubs.
Et c'est vrai, en plus c'est là où on joue aux fléchettes, donc c'est un sport de distance, hein, de toute façon. Donc ça devrait aller. Merci beaucoup, Olivier Bouin. On vous retrouve à 8h aux côtés de Dominique Tenza. 32-10 hein, pour nous joindre et pour jouer au Paco Mago tout à l'heure, pour nous parler exact aussi comme Virginie hein, nous dit qu'en ce moment, dans la Nièvre, il fait 10 degrés. Donc 32-10, également Facebook, où Sylvie nous dit bonjour hein, de la Charente-Maritime. Bonne journée à vous, c'est sympathique. Non, c'est vrai, non, mais parce que voilà, les gens ne nous disent pas forcément bonjour. Oui, dans la rue d'ailleurs aussi, bonjour Anam. Patricia, bisous à toute l'équipe, bonne journée. Carmela sur le Facebook de RTL Petit Matin. Bonjour Jean-Mathieu, 19 degrés à Montfavet, Avignon. Un petit mistral, nous dit-on. Bonne émission à toute l'équipe, bonne journée à tous. Jocelyne, coucou, ramenez-nous le soleil. Région lilloise, 11 degrés, pluie, vent. C'est le week-end dans le Nord, merci. Ben, aussi en fond dans le reste, hein, je le dis juste aussi à Jocelyne, pas que dans le Nord. Merci pour votre bonne humeur, bonne journée. Flo, beauté. 15 degrés à Bonneuil-sur-Marne. Bonne journée, nous dit-elle. On a beaucoup parlé de Jean Castex, c'est vrai, on en parle beaucoup. Est-ce que les animaux en pensent quelque chose de Jean Castex? Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a eu aucune nouvelle de la part des tortues, des chats et des chiens. Eh bien, nous, on va savoir justement ce qui se passe au niveau de l'actualité des petites bêtes. C'est avec Hélène Gâteau et c'est dans un instant.